Vous êtes sur RTL.
C'est un trouble.
C'est un trouble, ça, c'est au juge.
Après, c'est au juge à définir. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, il faut le faire. Et on peut saisir, le parquet peut s'en saisir ou on peut déposer plainte. Deux, quelle est la relation, ici, il y a une relation, entre ces jeunes-là qui ont foutu le bordel, on peut dire ça comme ça, hein, et cet homme qui a agressé physiquement, violemment, Éric Zemmour. 9 jours d'ITT quand même, tombons. Est-ce qu'il y a une relation entre ces gens-là?
Non, a priori.
Parce que si effectivement... Alors, il faudrait vérifier.
Il est en garde à vue, je crois pas.
Alors, si effectivement il y a une relation...
Ah oui, mais si, par définition, on le sait pas.
Non, mais j'entends bien, on le sait pas, on le saura. Moi, ça me paraît quand même curieux qu'il n'y ait pas une relation. Maintenant, après, la présomption d'innocence, je la respecte.
On ne peut pas en tout cas parler sur quelque chose qu'on ne sait pas. Je vous propose de marquer une première pause, Thierry. Et puis, ça va être intéressant d'évoquer ensemble votre parcours, parce qu'il est peut-être représentatif. C'est en tout cas la question que je poserai à M. Le Cerf.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour, cher Laurent Tessier.
Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au standard. Éric Zemmour a-t-il, selon vous, réussi son premier meeting? Plus de 10 000 personnes étaient présentes hier après-midi au parc des expositions de Villepinte. Dans un discours d'une heure et demie, il s'est dit prêt à prendre les manettes du pays. Et Éric Zemmour a répondu notamment aux accusations de racisme.
Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents et que ne pourraient être français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée? Non, évidemment, je ne suis pas raciste.
Impossible n'est pas français, reconquête. Que pensez-vous aussi du mouvement et du slogan du candidat? 3210, 3210.
Monsieur Le Cerf est donc avec nous, c'est le patron de BVA et on était avec Thierry. Et Thierry racontait son itinéraire et c'est toujours intéressant lorsqu'on a un auditeur, lorsqu'il nous dit je votais Zemmour, la dernière fois je votais Marine Le Pen et avant je votais RPR. Est-ce que ça c'est une trajectoire classique aujourd'hui?
Alors classique, elle concerne un certain nombre de personnes. Déjà, le profil, encore une fois, votre auditeur a un certain nombre de caractéristiques qui peuvent... d'autres moins, mais qui peuvent correspondre à, si on fait un portrait robot de l'électeur potentiellement attiré par la candidature d'Éric Zemmour, effectivement, plutôt homme, plutôt, pardon monsieur, âgé, mais on va dire...
54 ans.
Au-dessus de 50 ans, on va dire, ça n'est pas âgé. Mais,
non, voilà. Quand même
mais
pas.
Mais parmi les électeurs, effectivement, avec cette idée de catégorie socio-professionnelle moyenne ou supérieure, donc on est dans ces éléments-là, et des gens qui s'intéressent beaucoup à la politique, parce que c'est une autre caractéristique de ceux qui sont aujourd'hui plutôt séduits potentiellement par la candidature d'Éric Zemmour, c'est qu'ils s'intéressent à la politique, encore une fois, en bien ou en mal, pour la critiquer ou pour y adhérer, mais il y a un vrai intérêt. C'est un noyau, encore une fois, c'est un noyau relativement restreint. Après son parcours, oui, c'est un parcours que l'on a pu voir. Bah, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a vu le Front National puis le Rassemblement National réussir à capter un certain nombre d'électeurs de droite au cours des 15-20 dernières années. Et aujourd'hui, il peut y avoir un certain doute chez ces électeurs qui ont déjà franchi ces étapes-là. Hein, ce qui est intéressant, c'est que monsieur a un parcours, effectivement, avec différentes étapes. Le parcours est un peu plus compliqué, sans doute, pour ceux, et ils sont moins nombreux, même s'ils existent, qui se réclament de la droite traditionnelle, sans être passés par la case Rassemblement National, et faire ce saut vers Éric Zemmour, c'est un peu plus compliqué. Il y en a malgré tout.
Thierry, un mot à rajouter, peut-être?
Non, mais j'étais pas militant, comment dire, du Front National, ni du Rassemblement National. Moi, j'étais RPR.
Non, je parlais électeur, monsieur, je parlais électeur.
Et pour moi, Éric Zemmour, c'est le RPR, parce que toutes ces personnes qui étaient là, et d'ailleurs, ça s'est dit, Éric Zemmour l'a dit, le programme du RPR, c'est exactement ce qu'Éric Zemmour propose. Juppé l'a dit, il s'est trompé, il ne reviendrait plus en arrière, enfin, tout le monde, quoi. Et en l'occurrence, voilà. Juste un mot, quand même, rapidement, sur le trouble à l'ordre public. Pour moi, il est caractérisé, prémédité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, également, juste un petit mot rapidement concernant l'histoire de la balle dans la tête de Jean-Christophe Lagarde. Pour l'instant, le parquet s'en est pas saisi. Personne n'a porté plainte. Je trouve ça scandaleux.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, effectivement. Bon, il s'est excusé immédiatement. Hein, il avait retiré ce qu'il avait dit. C'était il y a quelques jours. On se souvient qu'il avait dit si Pasqua revenait, il lui remettrait une balle dans la tête. Hein, c'était à peu près ça le sens de la déclaration de M. Lagarde. Merci Thierry. Merci, restez avec nous parce que Jamel est là et peut-être que Jamel n'est pas exactement sur la même ligne la ligne éditoriale que vous. Bonjour Jamel.
Bonjour Pascal.
Bon, vous avez écouté. Est-ce que d'abord vous avez écouté Éric Zemmour hier?
Oui, j'ai suivi avec attention son métier.
Bon, et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, choqué, étonné?
Le personnage ne m'étonne plus. Donc choqué, oui, ça comme à mon habitude. Par contre, ce qui m'a choqué, je reviens sur un petit point de précision, Pascal, c'est que sur BFM, j'avais regardé une image qui avait été filmée par un journaliste, et c'était journaliste quotidien, je crois. Et dès qu'ils ont été reconnus, il y avait des manifestants qui ont dit une balle. Une balle, c'est-à-dire...
Il y a toujours des gens qui sont... Vous savez, moi, je suis allé dans des stades de football pendant des années, et l'autre jour, ils ont balancé des bouteilles sur Dimitri Payet, ils l'insultent, qu'est-ce que vous voulez faire?
Oui, mais là, c'est le football, Pascal, mais là, on parle de politique quand même. Là.
Oui, ce qui se passe dans les meetings...
Je trouve ça un peu scandaleux.
Vous avez raison, c'est scandaleux, cette parole, elle est scandaleuse, vous avez raison. Vous avez raison, mais bon...
Devant tout le monde, une balle, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. On partage pas les mêmes
mais là on ne pourra jamais rien faire contre une parole isolée. Que voulez-vous faire? C'est un peu comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur le candidat Zemmour.
Alors, sur le candidat Zemmour, comme j'avais dit, de toute façon, je me répète à chaque fois, c'est hier ce qui s'est passé concrètement, c'est un peu l'image de ce que Zemmour propose aux Français. Si vous voyez, c'est ce chaos début de chaos interminable qui sûrement va plus avec le temps va plus monter crescendo et monter les uns contre les autres. Enfin voilà, au lieu de rassembler, ça va être que ça. Puis moi je pense que c'est que du flop, parce que on part à chaque réunion de Zemmour, c'est que du flop derrière. On parle du Bataclan, on parle du journal de 20h avec Gilles Boulot, et là aujourd'hui, là, pas hier du moins, son meeting qui s'est malheureusement terminé comme ça. Et je pense que ça va être que comme ça, Zemmour. Ça va être une succession comme ça de points négatifs. Voilà quoi.
Merci, je vais libérer Edouard Le Cerf, et je voulais savoir si là aussi on arrive à mesurer dans l'opinion la crainte, la peur que peut faire naître par exemple Éric Zemmour.
Alors. Spécifiquement Éric Zemmour, on peut toujours le mesurer, mais il faut faire très attention à ne pas mesurer quelque chose qui soit juste un moment.
Plus exactement le rejet, parce qu'on dit c'est paraît-il l'homme le plus rejeté de France, plus encore que Marine Le Pen au Rassemblement National.
C'est de toute façon aussi ce qu'il fabrique lui-même, et je pense que d'une certaine manière, il n'en est pas forcément mécontent. Je pense qu'Éric Zemmour se sert des outils que d'autres ont utilisés, et c'est vrai qu'on fait souvent référence à Donald Trump, qui est l'outil de la polarisation. C'est-à-dire faire en sorte que les camps soient très opposés, parce que si vous avez des camps très opposés, son camp, entre guillemets, sera constitué de personnes qui lui seront extrêmement fidèles, qui resteront derrière lui, quoi qu'il dise, etc. Donc, oui, je pense que, bien sûr, il crée cette...
Et ça se mesure.
Ah, en tout cas, on voit très bien, cette forme de polarisation, elle est un peu présente dans plein de domaines de la société française. La politique est aujourd'hui, potentiellement, même en France, un nouveau terrain de jeu pour cette polarisation-là, oui, ça va se mesurer. Et le fait d'avoir cette vision telle qu'il a développée avec un côté un peu crépusculaire, paranoïaque, pardon, c'est des mots qu'on a entendus, hein, qui sont... Eh bien, certaines personnes s'y retrouvent et s'y attachent extrêmement fortement. Et à l'inverse, vous avez d'autres personnes qui vont être tout aussi fortement opposées à cet élément-là. Cette question est une question importante pour la présidentielle qui s'annonce. Est-ce qu'on va être sur une présidentielle qui va justement jouer sur cette polarisation avec des blocs extrêmement durement opposés, ou est-ce qu'il peut y avoir des candidats ou des candidates qui vont tenter de trouver les éléments de compromis? Voilà, c'est...
Eh ben merci
on
beaucoup,
a des
monsieur.
Mois encore pour le voir.
Mais non, mais c'est toujours passionnant de vous écouter, et on va poursuivre avec Jamel, s'il le veut, avec Thierry qui est resté, avec José, avec Philippe. On parle d'Éric Zemmour, et merci au patron de BVA de nous avoir accompagnés durant quelques minutes.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h21, Laurent.
Qu'avez-vous pensé du premier meeting d'Éric Zemmour hier au Parc des Expositions de Villepinte? Est-il réussi? Qu'avez-vous retenu? Éric Zemmour peut-il aller chercher l'électorat des Républicains? L'opération séduction a en tout cas démarré.
Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti. Votre place est parmi nous, à nos côtés, dans ce combat pour la France.
Alors électeurs, sympathisants Les Républicains, que comptez-vous faire pour la présidentielle? 32-10, 3-2-1-0.
Nous sommes avec José. Bonjour José.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté le meeting hier d'Éric Zemmour?
Brillantissime. Non, vous savez, je vais vous dire, Zemmour pour la droite.
Ah oui, vous êtes un fan alors, évidemment.
Non, oui, mais attendez, je suis un fan objectif, d'accord?
Ah ben non, ça c'est pas possible, c'est un oxymore, fan objectif, voilà. C'est pas possible.
Oui, oui, le clair-obscur, je sais ce que vous voulez dire. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'au niveau de la droite, il est devenu incontournable. Ils sont dans une situation inextricable. Zemmour, c'est la créature de quoi? C'est la conséquence de quoi? C'est 30 ans de lâcheté, de compromission, de mensonges, de cynisme et de duplicité. En ce qui concerne le discours, vous savez, les gens qui ont une intelligence hors du commun, ils comprennent très vite, apprennent très vite, ont une capacité d'adaptabilité déconcertante, et donc ils sont comme les caméléons, ils se transforment, ils se métamorphosent, cela donne une bête politique, c'est-à-dire comme disait le journaliste ce matin de CNews. Moi, le discours, il a été tout à fait remarquable, qualité littéraire, construction intellectuelle...
Non mais que son discours soit bon, il y avait consensus. Pour te dire.
Oui,
qu'il fasse de la politique alors que d'autres font parfois que des discours de techno, il y avait aussi consensus.
Mais monsieur Pro,
après il ne fait que 13, 14 ou 15%, hein, c'est pas toute la droite.
Monsieur Pro, écoutez-moi, est-ce que j'ai écouté Zemmour parler d'économie avec un statisticien spécialisé en statistique monétaire? C'était et aussi au niveau de la politique agricole commune, c'était tout juste impressionnant. Il a parlé de balance commerciale, de balance des capitaux, du mécanisme de stabilité monétaire. Il a parlé de tout. Alors je voulais dire à tous ces ignorants qui disent que Zemmour est dans une vacuité incroyable au niveau de l'économie, que ce sont des ignorants qui comprennent rien.
Mais votre parcours à vous, parce que ça m'intéresse, votre parcours par exemple, en 2017, vous étiez chez qui?
Moi, je vous dis, j'ai voté Marine Le Pen.
Et avant cela, vous votiez Jean-Marie Le Pen?
Avant, je votais M. Sarkozy. Mais M. Sarkozy, finalement, quand on dit c'est un homme d'État, c'est vrai qu'au niveau de 2008, en ce qui concerne la crise financière, il a été exceptionnel, d'accord? Il a eu un sang-froid remarquable. Il a sauvé le système bancaire européen. Ça, il faut lui rendre hommage. Mais en ce qui concerne l'insécurité, M. Sarkozy a reculé.
Vous habitez à Marseille, hein, c'est important de le dire, parce que la sécurité peut-être est plus compliquée.
Oui,
parfois.
Mais là, si vous voulez, on en parlera une autre fois. Bon. D'ailleurs, j'ai discuté avec le Chauve aussi. Mais ce que je voulais vous dire par là...
Avec qui vous en avez discuté?
Non, c'est un ami à moi, il s'appelle le Chauve.
Ah bon, le Chauve, oui, voilà. Mais bon, on ne connaît pas le Chauve, forcément, donc j'étais un peu surpris que vous parliez du Chauve, mais bon, j'entends bien. Bon, ce qui m'intéresse, j'ai bien compris qu'il vous percute, Zemmour, et qu'il est puissant sur les idées.
Il me percute parce que c'est une intelligence.
Je peux comprendre parce que ce peuple de droite, entre guillemets, on l'entend sur RTL, on le connaît, etc. Mais il n'a jamais fait ce métier-là, il n'a pas l'ADN forcément d'un chef.
C'est ce que je viens de vous dire, monsieur.
Allez voter pour lui quand même?
Mais bien sûr que je vais voter pour lui.
Alors qu'il
n'a
jamais fait ce métier, qu'il n'a pas forcément d'expérience, tout ça ne vous fait pas peur?
Je m'en fous. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est un caméléon, il se métamorphose. Ce sont des gens qui ont les capacités hors du commun à se transformer.
Ah oui, vous êtes un vrai fan, quoi. Vous êtes vraiment...
je vous le dis franchement.
C'est bien, il vous a séduit, José.
Et pour quelle raison, monsieur Pro? Parce que c'est l'authenticité. Parce que ce mec, il a peur de rien. Parce qu'il parle dans le vrai. Vous comprenez ce que je veux dire?
Il parle dans un vrai qui vous correspond.
Voilà, ça ment pas. Ce mec, il est prêt pour mourir pour la France. Vous comprenez? Alors que les autres, c'est toujours le calcul politique. Et ça, c'est insupportable. C'est le cynisme absolu. Vous comprenez? Tout ça pour être réélu. Et ça, je supporte plus, j'accepte plus. Le seul qui pouvait faire quelque chose, c'était Sarkozy. Il a pas fait. C'est tout.
Merci, José. Mais vous allez pouvoir.
Je voulais dire quelque chose.
Oui.
C'est un peu hors sujet. Je trouve que le type, là, je peux comprendre, vous savez, qu'on se batte dans un meeting, bon, à coup de poing, entre hommes. Mais lui, ce qu'il a fait à la femme, là, c'est abject.
C'est-à-dire que
une femme comme ça.
Oui, je partage votre avis.
Je suis à côté, même si je suis quand Zemmour, c'est lui que je frappe, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que frapper une femme comme ça, je veux que la photo de ce mec, que toutes les femmes le voient en vidéo et sur Facebook ou sur Twitter. Parce que ce mec-là, pour frapper une femme comme ça, c'est un frappeur de femmes. Lui, il devrait être condamné par la justice. Moi, si je suis la femme, je porte peine contre lui. Vous comprenez?
Merci, José. Voilà. Merci. Vous avez quel âge, José?
6 ans, je suis vieux.
Quel âge, vous avez dit?
46.
46. Ah bah non, vous n'êtes pas vieux du tout, au contraire. Vous êtes... Bon, vous bossez cet après-midi, vous faites vous êtes dans quel secteur?
Je ne peux pas vous dire parce qu'après on va m'écouter et ça va pas plaire au chat, il ne veut pas que je divulgue certaines informations. Voilà.
Bon.
Un jour, le chat, il passera parce qu'il a une profonde admiration pour vous. Il dit que vous êtes quelqu'un d'authentique, d'intelligent, de très érudit. Bah, écoutez, voilà, je voulais vous le dire.
Bah, écoutez, c'est très gentil. Merci beaucoup, José. Si je me présente un jour à la présidentielle, je sais que je pourrais compter sur vous.
Comme vous, oui. Vous avez des valeurs humaines.
Mais a priori, c'est pas prévu.
Mais vous savez, une personne comme vous, elle a bouleversé, elle a transformé complètement toutes les équipes des chaînes d'information.
Bon, José, on est sur RTL, voilà, et je vous vraiment.
Voilà, je vous remercie beaucoup.
Mais restez avec nous en plus, parce que vous allez pouvoir, pourquoi pas, réagir encore. Je salue Dany qui est là. Hein, Dany.
Bonjour,
qui a passé
Pascal,
un bon week-end. Je salue également Olivier. Alors, Olivier, on va voir. Comment s'est passé ce week-end, hein, parce que vendredi, on était un peu dans l'expectative. Souvenez-vous, on ne savait pas à 14h, 14h15 si la maman de Olivier venait à Paris pour faire un petit tour dans les chalets de Noël et faire ses vacances. Donc, il va nous le dire et il va nous donner des informations sur son week-end, puisque je sais que ça passionne les uns et les autres. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier.
Premier meeting d'Éric Zemmour hier, et ce qui a notamment agité les réseaux sociaux, ce sont ces images de tension, de violence. Des militants de SOS Racisme dissimulés dans le public ont mené une action et dévoilé des vêtements pour dire non au racisme. Une bagarre avec les soutiens d'Éric Zemmour a éclaté en plein meeting. Des coups, des chaises qui volent, plusieurs personnes ont été blessées. Une manifestante a eu le visage ensanglanté.
Ils nous ont roué de coups, ils nous ont poussé, ils nous ont lancé des chaises dessus. On s'est retrouvés entourés de... je sais pas de combien de personnes. J'ai senti du sang couler sur mon visage. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et on s'est fait poursuivre avec le visage en sang par des militants qui criaient « Vous l'avez mérité, pourquoi vous êtes venu, vous l'avez bien cherché ?»
Un peu plus tôt, Éric Zemmour a été violemment bousculé avant son entrée sur scène par un opposant. Le candidat est blessé au poignet. Il a porté plainte contre un homme de 27 ans. Le parquet de Bobigny a annoncé l'ouverture d'une enquête après ces incidents.
On va être avec Philippe. Bonjour Philippe, qui habite Versailles.
Oui, bonjour.
Et vous avez écouté hier le meeting d'Éric Zemmour, peut-être ?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai écouté, j'ai regardé. Je trouve que ce monsieur est assez exceptionnel parce qu'il dit des choses vraies. Alors, il y a des millions de personnes qui se retrouveront dans ce que je dis parce qu'il dit des choses vraies, simples et vraies.
Alors par exemple, parce que ce qui m'ennuie, c'est que tout le monde appelle pour dire du bien d'Éric Zemmour, donc c'est pas mal aussi d'avoir des avis parfois contraires. Mais qu'est-ce qu'il dit selon vous avec ce mot, il dit des choses vraies?
C'est-à-dire quand il a posé sa candidature, quand il a dit qu'il était candidat l'autre jour, il a fait passer des images. Mais des images. Les images qu'on a vues, elles sont pas truquées. Est-ce que vous êtes, c'est superficiel ce que je vais dire, mais est-ce que vous êtes pour Gabin? Est-ce que vous êtes, ça c'est la France de Gabin, c'est la France de Dolon, c'est la France du Concorde, c'est la France du général de Gaulle, les images
qui
sont
passées... Oui, je suis d'accord avec vous, mais, Jean Gabin, on va pas faire revenir Jean Gabin.
Non, mais est-ce que c'est vrai, les violences qui se passent, est-ce que ça a été truqué? Bien sûr que non. Et donc tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces banlieues qui flambent et tout ça? Rien. Et ça, c'est... On papote et on ne fait rien.
Bah, donc, on fait rien, on essaye. Par exemple, d'abord, toutes les banlieues ne flambent pas. C'est la difficulté de ces discussions, c'est d'aller dans la généralisation. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a je ne sais combien de quartiers aujourd'hui qui sont en banlieue. Et ce matin, il n'y a pas eu de problème. Il ne faut pas imaginer que toute la banlieue flambe en permanence, matin, midi et soir. Il y a des incidents, mais quand il y a des incidents, ils sont médiatisés, mais il n'y a pas tous les jours et tout le temps des incidents.
Oui,
heureusement.
Non, mais d'accord. Moi, je regarde beaucoup CNews et tout ça. Donc, je vous regarde le matin.
Moi, je parle assez peu des faits divers, hein, si vous faites attention.
Bien sûr,
d'ailleurs.
Les faits divers. Est-ce qu'on peut aller se balader, par exemple, dans des banlieues qui craignent?
Ça dépend ce que vous appelez se balader. Oui, il y a des gens qui rentrent chez eux et qui se baladent.
Est-ce qu'il y a des zones de non-droit en France? Bien sûr que oui.
Alors là, vous dites effectivement qu'il y a des zones de non-droit, il y en a quelques-unes.
Voilà.
Mais elles sont effectivement... Alors là, effectivement, c'est une interrogation. Qu'est-ce qui fait que les points de deal qui sont supprimés le lundi et remis en place le mardi, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas les supprimer définitivement? On ne peut pas, pourquoi pas, entrer dans ces... Ça se pose... C'est des questions. Voilà. C'est une
et
question.
Quand M. Zemmour parle, je suis désolé, il parle vrai.
Mais je suis d'accord avec vous, mais je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit la même chose.
Et
il n'a pas réussi, ou il n'a pas pu, ou c'est peut-être plus difficile qu'on ne pense.
C'est un grand homme, monsieur Pompidou, c'était un grand homme. Je parle pas du général de Gaulle. Quand je vois qu'il y a des politiques, et c'est ça, excusez-moi, c'est puant, qu'il y a des politiques qui vont sur sa tombe et tout ça, style.
Oui, mais restons sur Zemmour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez pensé hier de Zemmour? Vous dites, il parle vrai. Quelles sont, par exemple, dans ce qu'il a dit hier, les paroles qui vous ont le plus touché?
Français, faut qu'on reste français, faut qu'on assume, faut que le droit du sol, par exemple, ça je suis désolé, et c'est pas encore une fois d'être raciste, ça n'a rien à voir, ça c'est les gauchos qui disent ça.
C'est-à-dire que le droit du sol, jusqu'à présent, quand on était sur le sol français, on était français, et vous considérez que ça, faut l'abroger, c'est-à-dire qu'on est français si ses parents sont français.
Il y a un moment, faut taper dans le vif.
D'accord.
Il y a un moment, faut taper dans le vif, c'est sans agressivité aucune.
D'accord.
Et quand il dit les droits de succession, tout ça, baisser les impôts, mais bien sûr.
Mais là, c'est ni droite ni gauche d'ailleurs de baisser les impôts. Tout le monde est d'accord. Vous savez que les impôts, ils ont baissé d'ailleurs. Emmanuel Macron, pour le coup, il a fait baisser les impôts dans son quinquennat pour les personnes les plus aisées.
Je ne parlerai pas de M. Macron parce que vous savez, on est tellement dans une situation catastrophique point de vue Covid, ça c'est on peut pas lui jeter la pierre, non. Ça, c'est
donc vous allez voter pour lui au final.
À M. Macron, non jamais.
Non, Éric Zemmour.
Éric Zemmour, oui, tout à fait.
Bon,
tout
et pareil question que j'ai posée aux autres auditeurs, en 2017, vous aviez voté pour qui?
Je m'étais abstenu.
Et en 2012?
Sarkozy.
Donc c'est un itinéraire qui paraît, effectivement, on vient de Nicolas Sarkozy, on vient du RPR, et puis on finit chez Éric Zemmour.
Voilà.
Merci Philippe.
Merci, bonne journée à vous.
Mais restez avec nous, parce que Mohamed va être là. Alors c'est intéressant d'avoir un avis qui est différent, et manifestement, Mohamed, me dit-on, qui est conducteur de travaux, n'est pas favorable, disons, à Éric Zemmour. Donc on va l'écouter après la pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va encore évoquer Éric Zemmour, mais on parlera évidemment après de Valérie Pécresse, peut-être de Jean-Luc Mélenchon, parce que ça a été un week-end très politique, finalement. Et puis également, la question qu'on posait, est-ce qu'il faut 2 jours de vacances en plus? Est-ce qu'il faut avancer des vacances scolaires? Laurent.
Valérie Pécresse peut-elle rassembler la droite? Nous attendons vos avis sur cette question au standard et sur les réseaux sociaux. A-t-elle des chances de remporter la présidentielle? Peut-elle s'entendre avec Éric Ciotti, le finaliste du Congrès qui a obtenu 39% des voix au second tour, a prévenu hier après l'interview donnée par la candidate la veille sur TF1.
Le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message.
Par
Valérie Pécresse. Je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une droite qui entend se faire respecter.
Et Valérie Pécresse a relancé tout à l'heure son appel à l'unité.
Maintenant, c'est le moment de l'unité. Aujourd'hui, la droite est de retour. Cette droite, elle est fière d'elle-même, fière de ses valeurs, des valeurs qui sont partagées par tous les candidats. Et je pense surtout que Éric a une place très singulière à jouer dans cette campagne qui s'ouvre.
Vous êtes électeur d'Éric Ciotti. Qu'allez-vous faire? Allez-vous rester dans votre famille politique ou êtes-vous tenté par un autre vote? 3210, 3210.
Nous sommes avec Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté le meeting d'Éric Zemmour hier?
Je l'ai écouté, j'ai vu juste quelques brides aux informations et j'ai surtout donc été un peu choqué par ce qui s'est passé donc d'un point de vue de la violence à une pointe. Ça m'a vraiment vraiment très j'étais vraiment très choqué par ce qui s'était passé, même si je m'y attendais un petit peu. Parce que le Zemmour, en fin de compte, c'est l'image qu'il renvoie. Voilà. L'image d'une violence, on l'entend dans sa voix.
Alors, on vous entend pas très bien, me dit Laurent Tessier, Mohamed. Donc, on va essayer de vous rappeler, de sécuriser la ligne. Et en attendant, c'est Michel qui était à Villepinte, précisément, hier. Michel avec 2 LE. Bonjour, Michel.
Non, avec un seul L.
Ah, bon, bah alors, c'est écrit Michel.
Bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
Mais Michel, c'est
oui, alors moi, je me permets de vous appeler.
Je vous en prie.
Parce que, voilà, moi, j'ai été pendant des années, toute mon existence depuis ma majorité, une électrice de gauche, militante. Voilà. Je suis d'Orléans, j'ai été exprès à Villepinte avec mon mari, qui est un ancien 68ard comme moi, très engagé à gauche. Ça a été un peu galère pour arriver là-bas. L'entrée était... Enfin bon, c'était triste. Au début, j'avais les larmes aux yeux de voir autant de quarts de CRS. C'était une horreur. Se dire qu'en France, la liberté d'expression est en train de foutre le camp. C'est vraiment horrible. Bon, et ensuite, on a évidemment aujourd'hui, les médias n'ont pas arrêté de se gargariser des événements, des incidents à SOS Racisme, qui était une provoque, et aussi de l'agression de Zemmour. Et moi, je voudrais vous dire pourquoi je suis allée là-bas. Je voulais vérifier. J'avais écouté les vidéos de tous ces passages en province. Donc, je me suis dit, je vais aller voir sur place l'ambiance. Écoutez, j'en ai fait des meetings dans ma vie. J'avoue que j'ai été stupéfaite. Il y avait un enthousiasme, une ferveur. Les gens buvaient les mots d'Éric Zemmour. Je n'ai pas vu de fachos et de crânes rasés contre lesquels j'ai lutté toute ma vie. Ça n'est pas vrai. J'ai vu essentiellement une classe moyenne qui a besoin d'être écoutée. Il y a eu, je voulais vous préciser ce qu'on ne dit pas. Bon, il y a eu, je ne sais pas, entre 12 000 et 15 000 spectateurs. On avait dit qu'il y aurait presque personne, parce qu'en plus c'était loin, c'était compliqué, on était empêchés. Il y a eu un retard parce que les gens étaient bloqués, n'arrivaient pas à pénétrer. On était obligés, pour des raisons de sécurité, d'être fouillés. Il y a eu deux passages de fouilles.
Bon, vous avez apprécié ce moment, manifestement, mais alors, ce qui m'étonne, c'est comment dire, peut-on passer de l'extrême gauche en étant 68ard
à... gauche, ou disons gauche plutôt.
Oui, alors comment est-ce qu'on peut être 68ard et être avec Éric Zemmour? Qu'est-ce qui vous séduit? Gauche... C'est ça qui m'intéresse. Moi.
Mais
qu'est-ce qui vous séduit
gauche...
chez lui?
Mais parce que la gauche a complètement oublié ses engagements.
Et lui, il reprend des engagements, vous trouvez, de gauche?
Évidemment, moi j'avais fait la campagne de Royal. Justement, Royal m'avait intéressée parce qu'elle disait « Ah, il ne faut pas laisser le drapeau français à l'extrême droite ». Elle avait bien raison. À l'époque, je croyais en elle. Ben oui, mais Royal, elle a oublié la laïcité. Elle a oublié que l'insécurité, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Je connais très bien les banlieues. Pendant 15, 20 ans, j'ai fait de l'alphabétisation et du français langue étrangère.
Et donc, Éric Zemmour, pour vous, répond à cette demande.
Ah, il y a une attente. Écoutez, il y a une attente dans le pays. Je pense que les médias, évidemment, surtout les médias, les bobos, mes enfants sont des bobos, je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais ils vont être horrifiés sûrement, qui ont des stratégies d'évitement.
C'est quoi un bobo
d'ailleurs? Ça dépend, il y a plusieurs sortes de bobos. Il y a les bobos aisés et puis il y a les bobos qui sont de la classe socioculturelle, qui ne peuvent pas, en fait, qui n'ont pas de liberté de penser, parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ils ne peuvent pas. Moi, j'ai aucun complexe, aucune culpabilité. J'ai travaillé, donc, comme je vous le dis, dans le domaine de la formation pour étrangers. Et mon mari était un spécialiste de l'aide au développement.
En tout cas, bon, vous êtes. Hier soir, vous étiez à Villepinte, vous êtes revenu à Orléans. J'imagine que vous n'êtes pas arrivé à Orléans très tôt.
Non, pas du tout.
Vous êtes 11h minuit, peut-être.
Oui, parce que le meeting.
Et vous avez été convaincu par ce que vous avez écouté.
Écoutez,
la ferveur de la salle.
Oui, la ferveur, le discours, l'orateur.
Et donc, vous votez pour lui.
Qu'on ne nous dise pas que c'est un rigolo, un je sais pas quoi, comme je me souviens plus ce qu'a dit Hidalgo. C'est un orateur.
Elle a dit que c'était un guignol, mais Anne Hidalgo.
Bah, oui, voilà, exactement. Bah, mais écoutez, il y a eu d'autres insultes. Il n'y a pas de contenu raciste et fasciste. C'est du grand n'importe quoi.
Bah, merci,
enfin,
Michel. Merci beaucoup, Michel. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis toujours surpris quand un homme politique attaque un autre homme politique, surtout lorsqu'il Madame Hidalgo ne réalise pas actuellement les intentions de vote d'Éric Zemmour, elle devrait chercher peut-être à comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est intéressant d'écouter les auditeurs aussi. Alors, bien sûr, c'est pas un sondage, c'est comme ça une micro-observation d'écouter ce que les uns et les autres disent. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, les gens qui nous appellent, en tout cas à l'heure du déjeuner, ils sont convaincus. C'est ça qui me frappe. Combien ils sont fans. Ils y vont vraiment comme s'ils étaient des supporters ou des fans d'un artiste. Nous sommes avec... Alors, il y a les bobos et il y a les boubouks. Et
les ça, c'est une transition.
C'est une transition. C'est donc notre ami Olivier que vous connaissez.
Exactement.
Olivier. Alors d'abord, Olivier.
Oui.
Olivier.
Oui, je suis là, Pascal.
Comment ça va?
Bah, ça va très bien, Pascal.
Bon. Est-ce que vous pouvez me dire si les gens réagissent?
Ils réagissent bien. Allez, j'y vais. Sur nos réseaux sociaux, pour Alain, hier, c'était le grand meeting de l'intolérance, que ça soit des deux côtés. Régis nous écrit, c'est peut-être le retour de la France, mais certainement pas paisible, plutôt haineuse. Et on termine avec Marie. Zemmour a frappé un grand coup hier. Il a donné le ton de la présidentielle à lui tout seul.
Vous connaissez ce sketch de Pierre Dac et Francis Blanche? Est-ce que vous pouvez le dire?
C'est sûr que non, Pascal, mais bon, vous pouvez toujours le faire.
Oui. Répond, oui, je peux le dire. Bon. Et alors, le week-end, comment ça s'est passé, cher Olivier? Parce qu'on était dans l'attente.
Mais
vous
oui,
avez expliqué vendredi que Madame Maire pouvait être à Paris ce week-end.
Exactement.
Fût-ce le cas.
Je suis allé la chercher à la gare, Pascal, mais bizarrement, je ne l'ai pas reconnue et c'est normal parce que c'est ma sœur, finalement, qui est venue à sa place.
Oh.
Mais oui. C'est une surprise.
C'est-à-dire que, mais vous n'avez pas le téléphone portable dans votre famille, vous échangez pas, c'est les pigeons voyageurs.
Exactement, par pigeons voyageurs.
Qui vous informe.
Une surprise, Pascal, c'est bien.
Je ne savais pas qu'il y avait une sœur boubouk, si j'ose dire. Je ne savais pas que c'est le jeu de cette famille dans la famille.
Elle va être contente.
Je voudrais la mère, je voudrais la sœur, je voudrais le grand-père. Mais non, mais et alors, qu'est-ce que vous avez fait avec votre sœur ce week-end?
Oh, écoutez, on a fait du bateau, Pascal, dans
du
tout
bateau.
Paris. Oui, vu que je connais très peu Paris,
mais écoutez, c'est du bateau.
On a été sur un bateau, on a vogué tel de vrais moussaillons. Bien sûr.
Sur les bateaux mouches.
Exactement, des bateaux mouches.
Ça c'est bien, vous êtes couvert parce qu'il faisait froid.
Ah oui, une petite laine, c'est normal.
Bon, mais elle est repartie.
Elle est repartie aussi
vous
vite.
Pas, vous
et pas en bateau.
Vous l'avez pas plongée dans la Seine.
Non, c'est bon. Pas le but quand même, c'est ma sœur. Oui.
Sur 49, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h52, Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Face à la flambée des cas de Covid-19, faut-il avancer les vacances scolaires? Un conseil de défense sanitaire se tient en ce moment même. Le gouvernement étudie la possibilité de fermer les écoles deux jours plus tôt, le mercredi, au lieu du vendredi. L'avis du professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.
48 heures, je ne sais pas en quoi ça peut diminuer la circulation, parce que c'est en ce moment que le virus circule. Si vous me demandez mon avis d'épidémiologiste, oui. Je vous dirais, ce serait bien que on avance d'une semaine pour
voilà.
Mettre les enfants en télétravail. Voilà.
Le professeur Philippe Amouyel, invité de RTL Midi. Le gouvernement doit-il annoncer de nouvelles mesures? 3210, 3210.
Nous sommes avec Laurent, on a terminé avec Éric Zemmour. On remercie Philippe, vous êtes toujours là, hein, Philippe, vous
étiez... Oui, je suis là.
Mais alors, on va parler de Valérie Pécresse. Vous êtes de Versailles, elle est de Versailles, Valérie
oui, tout à
Pécresse.
Fait, tout à fait. Mais bon, bah, si vous voulez, c'est une personne très capable, et vraiment très capable. Et de toute façon, moi, bon, elle est très bien. Ce qu'il y a, c'est que elle a retourné un petit peu sa veste et maintenant elle se droitise parce que justement elle a bien vu que c'était qu'il fallait se droitiser.
Bah justement, voilà. On va en parler avec Laurent. Bonjour Laurent. Qui
je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup et bonne journée du côté de Versailles, dans cette belle ville royale de Versailles. Laurent, bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors vous n'êtes pas forcément une pro à Valérie Pécresse.
Mais non, parce que moi je vais vous mettre les yeux en face des trous là, et j'espère que tous les Français vont m'écouter. Les Français ne veulent plus de cette politique. Elle a eu des postes à responsabilité, elle n'a rien fait.
Bah, elle est vice-présidente, elle est présidente pardon de la région Île-de-France et elle a été réélue, donc les gens sont plutôt satisfaits manifestement
non,
de son parcours.
Non, je pense que de toute façon, ils ont
vous
misé.
Non,
si, non ils ont misé. Je vais vous dire, Pascal, ils ont misé sur une femme, mais elle ne rassemblera rien.
Alors ça, c'est
du
pas
tout.
Bien.
Mais si, elle ne rassemblera rien du tout. Elle va prendre une cravate. Elle fait les choux gras pour Zemmour. Zemmour qui flirte sur une France qui souffre. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, le chômage. Elle ne fera rien du tout. Les Français en ont marre. Ce sont des chienlits. Nos politiques aujourd'hui, ce sont des
Vous êtes mûr pour voter Éric Zemmour, parce que hier, c'est ce que disait Éric Zemmour, et il parlait de Valérie Pécresse, et il disait, elle doit tout à Jacques Chirac, et elle fera la même chose que Jacques Chirac, c'est-à-dire, elle promettra tout, elle ne fera rien. Ce qui est un peu quand même abusif pour Jacques Chirac, parce qu'il a fait certaines choses.
Non, parce que je vais vous dire quelque chose, moi, entre Zemmour, entre Pécresse, moi, j'y trouve pas mon compte. Donc, vous savez ce que je vais faire?
Non.
Eh ben, je vais m'abstenir et je voterai, et je n'irai même pas voter. Mon droit civique, je vais le mettre à la poubelle aujourd'hui. Tellement les Français en ont marre.
Bon, Laurent, restez avec nous parce que c'est intéressant d'entendre cette irritation et moi, j'aime bien essayer de la comprendre. Donc, vous allez tout à l'heure nous dire pourquoi vous en avez marre. Mais il est 13h55. D'ailleurs, elle a quand même un avantage, si j'ose dire, Valérie Pécresse. Vous savez quel jour elle est née?
Allez-y.
Elle est née à 14 juillet. C'est bien ça d'être née un 14 juillet. Je trouve que c'est une belle date. Donc elle est du signe du cancer pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie. Jean-Alphonse, vous êtes de quel signe?
Moi je suis taureau.
Ah.
Voilà, mais
Il y a quelques célébrités que je ne citerai pas.
Je connais rien au signe. Oui, il paraît que c'est le signe des dictateurs.
Oui.
Mais ce n'est pas mon cas.
Je ne me suis pas perdu.
Mon cher Pascal, ben oui, mais bon. À chaque fois on dit ça. Mais...
L'heure du crime.
Alors, savez-vous, Pascal, vous savez, on dit souvent que la plus grande enquête criminelle, c'est JFK.
Oui.
Kennedy, avec des moyens incroyables. Eh bien, il y a une enquête qui est similaire à JFK et qui a eu les mêmes moyens et qui est de même importance. Et elle est considérée comme ça. C'est l'affaire Olof Palme, le premier ministre suédois, tué en 1986 dans la rue alors qu'il sortait d'un cinéma avec son épouse. Il va y avoir 35 ans aujourd'hui que Olof Palme a trouvé la mort. Il y a eu une enquête hallucinante, on est parti dans tous les sens, enquête totalement ratée d'ailleurs, totalement saccagée, on va le raconter dans l'heure du crime. Et puis très récemment, en 2019, on a trouvé le coupable. C'est un simple employé d'assurance qui s'appelait Stig Engström.
35 ans plus tard.
Oui, oui. Stig Engström, qui est un parfait inconnu, sauf qu'à l'époque, il se montrait partout. Vous voyez, c'était le genre de type qui voulait absolument apparaître sur les photos, parler aux médias en disant qu'il avait été le premier sur la scène de crime, qu'il avait même essayé de ranimer le premier ministre qui était mort. On l'a pris à l'époque pour un affabulateur, et puis il va y avoir toute une enquête qui va se dérouler là, très récemment, ces 10 dernières années. Où on va remonter le fil et on va tomber sur ce fameux mystérieux.
Il a été jugé,
Stig Engström. Il est mort en 2000.
Ah bon ?
Il est mort en 2000, donc on n'a pas pu le réinterroger. Mais aujourd'hui, il est considéré comme l'assassin de Olof Palme. Mais c'est une incroyable histoire.
Je vous confirme que quelqu'un qui est mort en 2000 est difficile à réinterroger.
C'est pour ça.
Mais ça, c'est une belle histoire.
Mais on peut faire parler les morts, vous savez, tout est possible.
Vous nous préparez du Noël ou pas ? Je vous avais demandé s'il y avait des...
Je suis en cours, vous serez tenu au courant en temps voulu.
La semaine de Noël, est-ce qu'il y aura une heure du crime spéciale Noël ? Des crimes peut-être qui se sont passés le 24 décembre.
Mon cher Pascal, je vous tiens au courant. Je ne peux pas dévoiler toutes mes batteries. Le suspense doit exister.
Le suspense ! Il est 13h58, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Et d'abord ce nouveau conseil de défense sanitaire pour faire face à la flambée des cas. Le taux d'incidence explose, notamment chez les plus jeunes. Chez les 6-10 ans, on dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants dans une trentaine de départements. Parmi les pistes envisagées par l'exécutif, avancer les vacances de Noël. On parle de fermer les écoles 2 jours plus tôt. Alors 2 jours, est-ce suffisant? Probablement pas, estime Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.
Si vous me demandez mon avis d'épidémiologiste, oui, je vous dirais, ce serait bien qu'on avance d'une semaine. Aujourd'hui, on a déjà des taux de contamination qui sont extrêmement élevés, hein, qui sont quasiment le double de ce qu'on voit dans la population générale. Donc la question est de savoir si on stoppe cette circulation à partir de la fin de la semaine, mettons, que ça évite en particulier que les petits-enfants qui se sont contaminés ramènent ça dans les familles et là, de risquer d'avoir un pic de contamination chez des grands-parents qui ne seraient pas vaccinés, parce que je vous rappelle qu'il y en a encore 600 000 qui ne sont pas vaccinés, et qui là pourraient encore à nouveau saturer l'hôpital.
Non. Philippe Amouyel, invité de RTL Midi. Les Républicains affichent leur unité. Éric Ciotti et Valérie Pécresse déjeunent ensemble en ce moment même à Nice. Premier déplacement pour la candidate LR à la présidentielle. Elle l'assure, Éric Ciotti aura une place spéciale dans ma campagne. Lui dit souhaiter ardemment sa victoire à la présidentielle après lui avoir reproché ce week-end de ne pas reprendre certaines de ses propositions. Une enquête ouverte par le parquet de Bobigny après les violences lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Le candidat a porté plainte contre l'homme de 27 ans qui s'est jeté sur lui. Des plaintes également déposées par SOS Racisme après l'agression de plusieurs militants de l'association par des participants. À retenir également dans l'actualité, Mohamed Lamine Abrouz renvoyé devant la cour d'assises spéciale pour complicité dans l'assassinat de deux policiers à Magnanville. Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider avaient été tués par un terroriste le 13 juin 2016. La météo demain, ce sera encore bien maussade. Une nouvelle perturbation pluvieuse arrive par l'ouest. Elle va traverser le pays tout au long de la journée vers l'est, épargnant a priori la Corse et le pourtour méditerranéen où le ciel restera assez couvert. Côté température, elles resteront assez fraîches. On aura 0 à 4 degrés en matinée sur la moitié nord, 5 à 10 partout ailleurs. Les courses et l'arrivée du quintet cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer le 10, le 5, le 3, le 6 et le 14. RTL, 14h02. La suite des auditeurs ont la parole avec Pascal Praud.
Merci. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Sébastien, donc nous étions avec Laurent qui habite Lille et qui est à vent debout, non pas tant contre Valérie Pécresse, mais contre ce type peut-être de personnalité. C'est ce que vous, je crois comprendre. Mais en même temps, vous êtes vent debout contre tous les politiques puisque vous n'allez plus voter. Donc non. Personne, c'est quand même, vous m'étonnez quand même, Laurent. Il y a quand même, il y a une offre, surtout cette année, très différente en termes de personnalité, en termes d'idées. Il y a bien quelqu'un qui correspond à vos idées.
Oui, il y a une belle offre. Alors je vais vous dire les offres que nous offrent nos politiques aujourd'hui. Les mensonges, d'accord, la haine, les mensonges. Voilà ce qu'ils nous offrent aujourd'hui. Nos politiques, que la France ne veut plus. Non, veut plus. La France, non, veut plus. Parce que, on en reparle, vous avez la paye le 30, le sein n'est plus un rond, d'accord ? Ça, on n'a jamais rien fait sur le chômage, sur l'insécurité, le pouvoir d'achat. Mais c'est une honte. Ce sont, et je le redis, des chiants. Les politiques, les politiciens, je sais pas, oh, ils s'en mettent plein la fouille. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et ils flirtent sur des sujets qui leur paraissent graves, hein, mais qui sont tellement futiles pour eux. Mais de toute façon, je ne crois plus en cette politique. Pourtant, bah, j'aime mon pays.
C'est ce que je vois, mais bon.
J'aime mon pays. Mais j'aime mon pays, monsieur Pro. J'aime mon pays. Mais moi, ça me dégoûte de voir tous ces mensonges, tous ces gens qui sont là pour parler, pour se faire voir. Une parenthèse, Nadine Morano, notre grande Nadine Morano, du Haut du Lièvre à Nancy, la petite gosse du Haut du Lièvre, qui n'a jamais rien fait au gouvernement et qui se permet, d'accord, de donner des leçons. Mais c'est une honte, une honte.
Bon, elle n'est pas là pour vous répondre, ça m'ennuie un peu parce que j'aime pas quand le ton est quand même aussi vif, parce qu'on ne peut pas généraliser. Je vous assure, les hommes politiques, je suis le premier parfois à être rude contre eux, mais aujourd'hui, tu prends quand même beaucoup de coups. Tu viens manifestement pas pour l'argent, parce que tu pourrais avoir des possibilités bien supérieures pour des gens qui sont généralement d'un niveau assez remarquable, pas tous, mais je pense à Valérie Pécresse. Vous savez, Valérie Pécresse, elle est deuxième de l'ENA et elle a fait HEC. Donc elle vient pas faire de la politique pour gagner de l'argent. Parce que la vérité, ça faut le dire, si elle était dans le privé, elle gagnerait, c'est pas deux fois plus qu'elle gagnerait, c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois plus. Parce qu'elle aura un poste qui est en rapport avec ce niveau d'études et qui fait que tu es dans l'aristocratie salariale française quand tu sors de l'ENA, que tu es numéro 2 et quand tu as fait HEC. Donc faut aussi peut-être les encourager à faire de la politique.
Alors, monsieur Pro, je vais conclure ce que vous avez dit.
Oui.
Elle a fait HEC, d'accord. Et ben moi, je suis boucher. Et ben je suis persuadé que j'aurai des meilleures idées qu'elle. voyez, c'est con de vous dire ça.
Mais c'est possible en plus.
Mais
c'est possible, attendez, mais attendez, les études n'ont rien à voir avec d'abord la qualité des études, la qualité des idées et l'intelligence. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il n'empêche que c'est pas non plus un facteur aggravant d'être numéro 2 de l'ENA. Ça montre aussi une capacité sans doute à réfléchir et à prendre des informations, tout simplement, qui peuvent servir dans la vie professionnelle.
Par contre, je suis sûr, monsieur Pro, et ça j'en suis intimement persuadé, que nous allons avoir une drôle de surprise aux prochaines élections.
Ah bon ? Alors c'est quoi votre intuition ?
Bah écoutez, l'intuition, c'est que j'ai peur que le pays s'enfonce dans la haine, avec des Zemmour, avec des Le Pen, parce que la France souffre, parce que les gens en ont marre, parce qu'ils crèvent de faim, parce que les gens vivent journalièrement, et je le redis, l'insécurité, ils vivent des choses, aller sur Internet, aller voir des gamins qui tapent des anciens, tous des trucs-là, les gens en ont marre. D'accord. Et vous savez, c'est comme ça qu'ils Hitler est passé.
Oui,
il est passé comment
Hitler, Laurent,
il est passé. Non, il est passé.
Non, c'est pas exactement comme ça pour tout vous dire. Mais peu importe, Laurent. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous remercier.
C'est moi qui vous remercie. Aime beaucoup, monsieur Pro.
Vous êtes sympa, surtout. Vous êtes sympa, mais ne soyez pas non plus catastrophique. Vous voyez tout en noir. Vous êtes crépusculaire.
Mais vous inquiétez pas.
Vous me parlez d'Adolf Hitler.
Je vous parle comme ça parce que malheureusement, l'Allemagne, vous savez, quand il était voté, l'Allemagne souffrait.
Oui, mais
je pense qu'aujourd'hui.
C'est pas comparable, je vous assure, pas comparable.
Peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Bon. J'ai peur.
D'être en retard, donc je vais être obligé d'écourter parce que c'est très intéressant, mais il y a plein d'auditeurs. Par exemple, il y a Maëlle qui attend, qui est étudiante. Il y a Arnould qui parlera du Covid. Et puis il y a Olivier qui a passé le week-end avec sa sœur sur un bateau mouche.
C'est vrai.
En croisière.
Presque une croisière.
Avec la chance que vous avez, ça aurait pu être le Titanic. Vous n'avez pas croisé d'iceberg sur la Seine.
Non, mais j'ai pas vérifié, mais non, il me semble pas de mémoire.
Bon, oui. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous sommes donc avec Maëlle. Bonjour Maëlle, qui est étudiant en Ille-et-Vilaine et qui est un militant des Républicains. Bonjour.
Bonjour Pascal Praud, vous allez bien ?
Mais ça va très très bien. Est-ce que Valérie Pécresse, c'est votre choix ?
Moi, honnêtement, j'avais pas fait le choix de Valérie Pécresse au premier et deuxième tour. Ça avait été Éric Ciotti, parce que je fais mes études à Nice. Et en fait, j'avais beaucoup suivi dans sa campagne, et notamment auprès des travaux qu'il peut mener à l'Assemblée nationale. Mais il est vrai que maintenant, c'est notre famille politique. Le jeu du Congrès, il faut l'accepter. Les règles, on les a acceptées dès le début. Je me rangerai bien évidemment derrière Valérie Pécresse. Mmh. Et pour tout vous dire, je vais à Saint-Martin la rencontrer pour son premier meeting pour la présidentielle.
Il y avait une question qu'on se posait avec Édouard Le Cerf de positionnement stratégique. Votre avis, Madame Pécresse, est-ce qu'elle doit aller chercher à droite les voix de Marine Le Pen, les électeurs bien sûr, et d'Éric Zemmour, ou est-ce qu'elle doit tenter d'aller chercher les voix du centre, ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron, sachant que c'est difficile quand même d'aller chercher les deux, parce que évidemment les mesures qu'elle prendrait ou qu'elle annoncerait seraient un signe dans un camp ou dans un autre.
Bien sûr, moi si vous voulez mon avis, je pense que déjà en politique, il ne faut pas oublier d'où l'on vient et rester qui l'on est. Donc je pense que Valérie Pécresse, elle a une ligne, il faut qu'elle assume, il faut qu'elle revendique ses valeurs. Mais je pense qu'il faut aussi qu'elle compose avec le score plutôt incroyable de la part d'Éric Ciotti. Et je pense que ces électeurs de droite, qui se revendiquent de droite, il faut aussi qu'elle aille aussi le chercher. Et là, à mon avis, c'est aussi le pari, le double enjeu qu'elle doit avoir. C'est de ne pas s'oublier, c'est de ne pas s'effacer, tout en parlant à la droite et aux droites finalement, parce qu'on a quand même plusieurs droites au sein de notre famille politique. Et je crois que ce pari-là, il va être périlleux. Et je crois qu'elle a d'abord, je pense, réussi ce congrès. Maintenant, elle doit aussi parler à tous les Français. Donc, cette droite, il faut qu'elle l'assume. Elle en parle, d'ailleurs, de cette droite assumée. Et à mon avis, c'est le projet le plus alternatif et le plus crédible pour l'alternance avec Emmanuel Macron.
Bah écoutez, c'est intéressant d'entendre votre expertise, sachant que ce sera la difficulté pour Valérie Pécresse, parce que il y avait une question il y a une question qui lui sera posée: est-ce qu'elle est plus proche de Marine Le Pen ou est-ce qu'elle est plus proche de Emmanuel Macron? Cette question, elle va l'éluder. Elle va l'éluder, mais on lui rappellera, Madame Pécresse, que le soir du premier tour 2017, à 20h02, elle a appelé à voter immédiatement Emmanuel Macron. Donc, évidemment, votre électorat, il est très sensible à cette question. Par exemple, vous, Maëlle, dans un deuxième tour, je ne sais pas si vous votez Emmanuel Macron ou si vous votez, dans l'hypothèse, bien sûr, ou Marine Le Pen, ou si vous ne votez pas du tout, d'ailleurs.
Moi, je pense, honnêtement, dans un deuxième tour, même si le choix du vote restera propre à moi, mais c'est vrai que je ne voterai pas Emmanuel Macron.
Parce que j'ai le sentiment, Macron, effectivement, que l'électorat de Valérie Pécresse est allergique. Le mot peut-être est un peu fort, mais en tout cas, n'est pas disposé à voter.
Mais bien sûr, mais vous savez, Pascal Pro, moi je pense que, encore une fois, il faut de la clarté. Je pense que le programme de Valérie Pécresse et d'Éric Ciotti, ils étaient budgétés à environ 5 milliards d'écart. Mais honnêtement, quand on l'interroge sur la question de l'immigration, quand on l'interroge sur le travail, qu'est-ce que ça représente, ces valeurs-là, sont les valeurs de la droite républicaine, on les a assumées, on les assumera. Et je pense que Valérie Pécresse, dans cette campagne et son déplacement à Saint-Martin-la-Vésubie, dans le village d'Éric Ciotti, de son enfance, je pense qu'elle fera ce choix de clarté. Elle ira parler aux électeurs de droite, mais elle ira surtout et avant tout parler aux Français. Moi, vous savez, j'ai 21 ans. Je m'engage pour ma famille politique. Je pense qu'aujourd'hui, on a toutes nos chances pour gagner. On ne va pas encore reprendre 5 ans d'Emmanuel Macron. On ne veut pas de la décadence pour la France. On veut simplement que la France, je reprends le slogan d'Éric Ciotti, mais il est vrai, c'est que la France reste la France.
Ben merci Maëlle, merci beaucoup. Et vous avez 21 ans, et c'est bien de toute façon de s'engager politiquement lorsqu'on est jeune.
Et il faut s'engager parce que, vous savez, même votre auditeur juste avant, qui était assez vindicatif, moi je trouve que...
Ah, on vous entend plus Maëlle. On a perdu Maëlle. Olivier, on a perdu Maëlle.
Ah bah on a perdu Maëlle, oui, je viens de le voir, Pascal.
Ben bon, oui, même de l'écouter.
Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, sur nos réseaux sociaux, Lionel.
Allons.
Allez, on y va.
On est parti.
On est parti, Pascal.
On y est.
On y est déjà, c'est sûr. Sur nos réseaux sociaux, Lionel nous écrit: Valérie Pécresse promet tout, mais ne fait pas grand-chose. Une girouette politique pour Bruno. Elle veut rassembler la droite, mais Éric Ciotti a déjà quitté le navire. Elle va avoir beaucoup de mal. Et on termine avec Antoine, convaincu par Valérie Pécresse. C'est pour lui la seule qui incarne une droite modérée.
C'est vrai qu'elle a cette image, en tout cas, même si elle semble vouloir aujourd'hui droitiser peut-être son image et son discours. Est-ce que nous marquons une nouvelle pause peut-être? Et après la pause, comme tous les jours, au retour de la pause, restez avec nous. Pourquoi? Parce que la chanson de Noël du réalisateur aujourd'hui, c'est Dany. Dany a choisi, il a réfléchi toute la semaine, tout le week-end. Est-ce que ce sera en anglais, en français, dans une autre langue, une chanson de Noël? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again.
Ça, c'est joli, Dany. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Je remarque que la jeunesse aime Noël en anglais.
Oui, c'est vrai, Pascal, c'est vrai. C'est un titre de Michael Bublé.
Michael comment?
Bublé.
Bublé.
Voilà, un artiste pop jazz américain.
Alors ça m'avait échappé, Michael Bublé. Ça s'écrit comment?
B-U-B-L-E.
Voilà. B-U-B-L-E. Michael Bublé. Tout le monde connaît dans régie?
Oui, tout le monde acquiesce. Ils ont l'air...
Non. Ah non, mais c'est drôlement bien ça, Michael Bublé. Moi je trouve ça bien. C'est nouveau?
Ça doit dater de 2 ou 3 années, Pascal, voilà.
Ah ouais, c'est bien. Et puis c'est original. Ça change les compagnons de la chanson. Qui sont un peu datés, disons-le. Eh bien, merci, Dany. Excellent choix. Arnould, bonjour.
Bonjour Pascal.
Arnould, il y a plusieurs questions sur les restrictions à venir ou pas. D'ailleurs, visiblement, ça va être assez léger. Que pensez-vous qu'il faille faire?
Bon, alors déjà, j'ai entendu parler qu'on voulait peut-être pousser les vacances de Noël. Donc, je trouve que cette idée est inutile, est absurde. Absurde parce que moi, pour prendre mon exemple personnel, moi j'ai réservé des vacances à l'étranger avec mon fils et on part du 18 au 27. Donc quoi qu'il en soit, quelle que soit la date réelle des vacances, mon fils sera soit absent avant ou soit absent après. Mmh. Et je pense pas être le seul dans le cas à avoir organisé des vacances en espérant bien sûr qu'on puisse partir. Moi je pense concernant le Covid et cette cinquième vague, je suis plus partisan aujourd'hui de rappeler les gestes barrières, pourquoi pas remettre un petit peu des jauges dans les commerces, voire même comme en Allemagne de refuser l'entrée dans certains commerces à ceux qui ne sont pas vaccinés. Mmh. Et je vais faire deux propositions qui vont probablement
faire réagir. Moi j'aime bien les propositions parce que ça c'est concret.
Mais qui vont probablement faire réagir les auditeurs, en tout cas ceux qui ne sont pas vaccinés. Mmh. Moi, d'une part, je me dis que demain, s'il y a véritablement un engorgement dans en réanimation, il devrait y avoir priorité à ceux qui se sont fait vacciner. Mmh. Deuxièmement, les gens qui ne sont pas vaccinés, s'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ont tout à fait le droit de ne pas se faire vacciner, mais ils devront payer le coût d'une journée, de chaque journée de réanimation qui est énorme. Parce que je ne vois pas pourquoi les citoyens qui se sont fait vacciner par leurs impôts devraient payer
les gens jours qui de réanimation roulent à...
de ceux qui ne sont pas vaccinés.
Alors moi j'entends ça, les gens qui ont un accident de voiture et qui étaient à 170 km/h, on ne les soigne pas. Les gens qui étaient à 2,20 g et qui ont eu un accident, on ne les soigne pas. En fait, tous ceux qui sont en dehors de la loi, selon vous, un jour, on ne les soigne pas. Un type qui est en état d'ébriété et qui rentre à l'hôpital, on ne le soigne pas. C'est bien, c'est un modèle de société qui est intéressant. Hein. Je suis pas. Pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais c'est bien, je trouve qu'on avance. C'est un progrès. Non, c'est un progrès que nous faisons.
Je le disais d'une manière un petit peu humoristique.
Je croyais que c'était le premier degré pour tout vous dire. J'avais pas compris que c'était du second.
Non.
Alors
non,
je retire ma remarque.
Mais vous avez raison. Mais tout ça pour dire qu'on devrait quand même les gens.
Vous n'êtes pas très déterminé en même temps. Hein. On vous dit quelque chose et vous retirez tout. Franchement, vous n'êtes pas têtu au moins.
Alors, je ne retire pas tout. Je pense qu'on devrait, malgré tout, que les gens.
Les gens, s'ils ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ils ne seront pas vaccinés. Voilà, c'est la liberté. Après, c'est comme ça. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Je ne vous dis pas que c'est bien. Je ne vous dis pas que c'est civique. Je ne vous dis pas. Mais qu'au nom de la liberté, ils font ce qu'ils pensent être la meilleure solution pour eux. Merci Arnould, merci beaucoup. Merci, je salue Jacques, journée. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de le prendre. Jacques, il est 14h23, c'est l'heure de monsieur Laurent.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Éric Zemmour a-t-il, selon vous, réussi son premier meeting ? C'est la question qui vous a fait réagir ce midi. Jamel n'a pas été convaincu, loin de là.
Le personnage ne m'étonne plus. Hier, ce qui s'est passé concrètement, c'est un peu l'image de ce que Zemmour propose aux Français. Monter les uns contre les autres. À chaque réunion de Zemmour, c'est que du flop derrière.
José, lui, est un supporter d'Éric Zemmour.
Brillantissime.
Vous êtes un fan, alors, évidemment.
Non, oui, mais attendez, je suis un fan objectif, d'accord ?
Ah ben non, ça, c'est pas possible.
Au niveau de la droite, qu'il est devenu incontournable. Zemmour, c'est la créature de quoi ? C'est la conséquence de quoi ? C'est 30 ans de lâcheté, de compromission, de mensonges, de cynisme et de duplicité.
Et dans l'émission, vous êtes tous très à l'aise, ça se sent. Tiens, José nous parle d'une de ses connaissances.
Et enfin, discuter avec le chauve aussi. Mais ce que je voulais vous dire par là...
Avec qui vous en avez discuté ?
Non, c'est un ami à moi, il s'appelle le chauve.
Ah bon, le chauve, oui, mais bon...
Et vous savez, dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui...
Il y a les bobos, il y a les boubouks.
Oui, Olivier, notre monsieur réseaux sociaux qui lit tous vos messages, dit dans le milieu de la nuit, monsieur boubouk, ou encore, quand on l'interroge à l'antenne...
C'est Jean-Michel à peu près.
Oui, madame boubouk-mère était attendue en région parisienne ce week-end, mais que s'est-il passé finalement ?
Je suis allé la chercher à la gare, Pascal, mais bizarrement, je ne l'ai pas reconnue, et c'est normal, parce que c'est ma sœur, finalement, qui est venue à sa place.
Oh.
Mais oui, une surprise, Pascal, c'est bien,
je ne savais pas qu'il y avait une sœur boubouk, si je... Je ne savais pas que c'est le jeu de cette famille. Dans la famille
elle va être
Boubouk,
contente.
Je voudrais la mère, je voudrais la sœur.
Vive la sœur Boubouk, un week-end donc inattendu. Une question, Pascal, face à ce rebondissement.
Vous ne l'avez pas plongé dans la scène ?
Non, c'est pas le but quand même, c'est ma sœur. Oui.
Voilà, rassuré, ça aurait fait un sujet pour Jean-Alphonse Richard dans L'Heure du Crime. Une question peut-être sur ce moment en bateau ?
Un iceberg droit devant !
n'avez pas croisé d'iceberg dans le, mais, sur la Seine.
Non, mais j'ai pas vérifié, mais non, il me semble pas de mémoire.
Hein. Bon, oui, oui. À tout de suite.
Voilà une question pertinente. Et tiens, avant Noël, c'est cadeau. Nous tenons à vous offrir plus d'informations sur la vie de vos présentateurs préférés. Jean-Alphonse Richard.
Jean-Alphonse, vous êtes de quel signe ?
Moi, je suis taureau.
Ah.
Voilà, mais je.
Il y a quelques célébrités que je ne citerai pas.
Je connais rien au signe. Oui, il paraît que c'est le signe des dictateurs.
Oui.
Mais c'est pas mon cas.
Je ne me suis pas perdu. Cher...
Nous voilà rassurés. Vous cherchez, tiens, une idée de cadeau. Le nouveau CD de Julien Courbet est disponible. Il chante Noël.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, amène donc ta truelle. Dans la boutique, personne peut entrer. Mais il y a Pascal Pro qui va venir travailler.
J'espère qu'il vous apportera un nouveau polo blanc hein, pour
oh,
Noël.
Avec ce polo blanc.
Ça s'est fait. Une dernière chose à rajouter, Pascal, avant l'heure du crime.
J'ai écouté en boucle cet été. Le reste, je te le laisse.
Ah, et vous avez votre.
Ah, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte alors avec la chanson qui vous a accompagné dans la salle de bain.
Le reste, je te le laisse.
Elle est jeune, elle est belle, elle a du talent, elle écrit des chansons formidable. Merveilleuses, elle, est, ouais. elle a des mélodies formidables.
Ouais. Il y a toute une génération comme ça, de chanteuses ouais. qui arrivent, enfin qui sont déjà installées, mais qui sont extraordinaires.
Merci cher ami, l'heure du crime c'est maintenant.
Et c'est à tout de suite, l'affaire Olof Palme, 35 ans d'enquête.